Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce que nous pouvons retenir de la suite de l'histoire de la Genèse, donc des premiers temps de l'humanité après que Adam et Ève chassés du paradis terrestre, c'est la présence de Dieu. On connaît relativement bien l'histoire de Caïn, mais ce qu'on connaît moins, ce sont les paroles que Dieu lui adresse. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur Abel, qui est loué dans l'Écriture sainte pour la qualité de sa vie chrétienne. On ne devrait pas dire la vie chrétienne puisque le Christ n'est pas encore paru, mais il a été annoncé. Et c'est en référence à Jésus-Christ, connu de façon plus ou moins claire peut-être, mais c'est en référence à Jésus-Christ que les justes dans l'Ancien Testament agissent et vivent. Or, on voit que si Caïn fait à l'Éternel, c'est-à-dire à Dieu, une offrande des fruits de la terre, Abel de son côté en fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. On voit donc qu'il y a une attention à choisir le meilleur pour l'offrir à Dieu du côté d'Abel, alors qu'au contraire, Caïn donne ce qui vient, ce qui lui tombe sous sa main, et pas nécessairement le meilleur. Les pères de l'Église affirment très nettement ce que je viens de vous dire. Et beaucoup de pères de l'Église également font remarquer que si l'offrande d'Abel a été agréée, c'est parce qu'il s'offrait soi-même en même temps qu'il offrait son sacrifice. Tandis que Caïn se débarrassait d'un devoir envers Dieu en faisant un sacrifice non pas du bout des lèvres mais plutôt du bout des doigts et se gardait bien de s'offrir en même temps soi-même à Dieu. Il y a dans l'attitude d'Abel évidemment la marque d'une très grande présence du Saint-Esprit. Abel agit sous la motion du Saint-Esprit. Ça va être encore plus clair lorsque nous allons voir, comme tout de suite, les reproches de Dieu, ou plutôt les conseils de Dieu à Caïn. Alors, Dieu parlait-il en se faisant voir, ou bien se faisait-il simplement entendre, ou bien s'agissait-il des inspirations du Saint-Esprit? Ce qui est absolument certain, c'est que même s'il ne se fait pas entendre extérieurement et qu'il s'agit d'inspiration intérieure du Saint-Esprit, ces inspirations sont certaines, elles sont nettes, elles sont précises, elles sont présentes. Il est important de le remarquer parce que nous avons là l'Église naissante. Et si le Saint-Esprit est à ce point présent à l'Église naissante, à combien plus forte raison aujourd'hui, alors que le Christ est venu et nous a promis de l'envoyer d'abord aux apôtres et puis ensuite à nous tous. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité de cela, et son visage fut abattu. Alors Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur le péché. » Nous avons ici quelque chose de très paternel. Saint Jean Chrysostome ne tarit pas d'admiration envers la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui travaille à amadouer Caïn. L'offrande de Caïn était déjà mauvaise, son péché est déjà consommé, mais Dieu ne cherche pas à voir le péché, il cherche à amadouer Caïn de manière à pouvoir lui pardonner. Le péché est déjà commis, puisque Adam a fait sa mauvaise offrande, que Dieu a refusé d'accepter cette offrande, c'est donc bien que le péché est commis. Et pourtant, Dieu s'adresse à lui avec vraiment le désir, en lui donnant des conseils pour vivre correctement et pour voir lui pardonner. Cain n'en tient pas compte, il attire son frère dans un guet-apens et le tue. Il le tue de jalousie. Le péché est vraiment très grave, non seulement parce qu'il y a meurtre, mais parce qu'il y a jalousie, et la jalousie s'en prend directement à Dieu. Pourquoi, Dieu, avez-vous donné tel bienfait à mon frère? Pourquoi ne me les avez-vous pas donnés? Avec en plus une détermination dans le mal, c'est-à-dire un refus de voir que si Dieu n'a pas accepté cette offrande de Caïn, c'est parce que l'offrande ne méritait pas la bénédiction de Dieu. Le Saint-Esprit va revenir vers Caïn. Cette fois-ci, il va parler de façon plus sévère, mais encore avec beaucoup de bonté. Où est ton frère Abel? Et Caïn s'enfonce. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Eh oui, il était l'aîné. C'est évident qu'il a une responsabilité sur son frère. Dans toute l'Écriture sainte, on voit l'importance de l'aîné ou de celui qui tient la place de l'aîné. Je vous ferai peut-être un sermon là-dessus. Adam était l'aîné de l'humanité, et comme il était indigne, il est remplacé par Jésus-Christ, qui sera l'aîné de l'humanité. Et puis, Caïn est l'aîné d'Abel, mais il est indigne, donc il sera remplacé par Seth, nous allons voir. Et puis nous aurons Ésaü, qui est l'aîné, et qui est remplacé par Jacob. Et puis, les pères de l'Église ne se privent pas de faire remarquer, ici et à bien d'autres endroits de l'Écriture sainte, de l'Ancien Testament, que la synagogue est l'aînée des croyants et qu'à cause de son infidélité, elle sera remplacée, elle a été remplacée par la Sainte Église catholique romaine. Si je vous dis cela, c'est parce que l'aînée a nécessairement une proximité avec le Saint-Esprit qui lui donne l'autorité. Il ne pourrait pas avoir autorité s'il n'avait pas la proximité avec le Saint-Esprit. On n'est pas l'aîné par l'âge, ou plutôt, si Dieu donne une telle importance à celui qui est l'aîné par l'âge, c'est parce qu'il veut lui donner une responsabilité, et cela, évidemment, suppose qu'il lui donne l'autorité, mais l'autorité n'est pas le pouvoir. L'autorité, je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas les menottes. L'autorité, c'est la sagesse. Et cette sagesse vient nécessairement de Dieu, elle vient nécessairement du Saint-Esprit. Et la preuve, c'est que lorsque l'aîné n'est pas fidèle à sa fonction d'aîné, Dieu la transfère à un autre qui, lui, est sage et proche de lui. Il choisit toujours pour remplacer quelqu'un qui est proche de lui. Nous allons le voir tout à l'heure, par exemple, avec les descendants de Seth, notamment Enoch, qui aura le privilège d'être emmené par Dieu pour être plus proche de lui. Nous voyons cela également avec Jacob, qui est vraiment un personnage d'une sainteté exceptionnelle. Mais n'anticipons pas. Donc, Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Et celui-ci a l'audace de répondre, « Je ne sais pas, tu parles. Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh oui. Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Vous connaissez la suite du dialogue. Caïn fait semblant de se repentir, il reconnaît son crime, mais sans aucune contrition. C'est même presque un défi à la miséricorde de Dieu. Il dit à Dieu, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, vous me chassez aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de votre face. Je serai errant, vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Caïn répond mal, mais il répond. Il répond parce qu'il entend Dieu. Dieu est présent. Et Dieu va mettre un signe sur Caïn, qui sera un signe de malédiction, hélas, mais qui montre bien la présence très attentive de Dieu à ses créatures depuis le début. La descendance de Caïn n'est pas glorieuse. Il enfanta Enoch. À ce propos, saint Jean Chrysostome fait une remarque qui me paraît importante. On n'a pas encore parlé d'autre femme qu'Ève dans la Genèse. Comment se fait-il qu'Enoch ait pu connaître sa femme? Saint Jean Chrysostome dit, parce que, tout simplement, Adam et Ève avaient déjà engendré des filles. Mais, comme le Saint-Esprit, dans la Bible, veut attirer notre attention sur l'essentiel, il ne s'attarde pas à nous dire que Enoch avait trouvé une femme. Ce n'est pas là l'important. Deuxième remarque, et Saint Jean Chrysostome d'ailleurs dit, n'allez pas chercher des choses qui sont de la pure curiosité, qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Si le bon Dieu ne nous les raconte pas, c'est que nous n'avons pas besoin de les connaître. Deuxième remarque, Caïn s'est donc uni à l'une de ses sœurs. Oui, bien sûr, on était au tout début de l'humanité, et Dieu a fait en sorte que ce ne soit pas un problème. Ce sur quoi le Saint-Esprit attire notre attention, c'est le fait que Caïn enfante Enoch, et que Enoch bâtit une ville, et qu'il donne à son fils, à cette ville, pardon, le nom de son fils. Et le nom de son fils, c'est son propre nom, Enoch. On voit nettement la désapprobation de l'Écriture sainte. Qu'avait-il besoin de construire des villes pour se rendre fort, de leur donner comme nom leur propre nom ou le nom de leur fils, pour passer à la postérité? Et saint Jean Chrysostome nous dit, Dieu a prévu que les hommes passent à la postérité par la qualité de leur vertu et leur bon renom, le renom de leur vertu, non pas par la gloire factice d'avoir construit des villes et de leur avoir donné leur nom de famille. De fait, il faudra arriver dans les temps modernes après la Révolution pour avoir des Philippeville, des Stalingrad, etc. Le dernier descendant de Caïn dont nous parle l'Écriture sainte, c'est Lamech, qui lui aussi se rendra coupable de deux meurtres, et alors que Caïn doit être puni 7 fois, Lamech doit être puni 77 fois, parce que Caïn avait plus ou moins l'excuse de ne pas avoir encore compris peut-être ce qu'était la mort, petite excuse seulement, mais enfin quand même, tandis que Lamech n'a même pas cet exemple. Il faut se rappeler que Caïn vécut longtemps et qu'il était encore en vie lorsque Lamech commit ces deux meurtres. En face de tous ces hommes qui quittent Dieu, qui quittent le regard de Dieu, c'est-à-dire qui s'opposent à Dieu, le mettent de côté, nous avons Seth qui va être le troisième enfant mâle d'Adam et Ève, et Ève va être très reconnaissante à Dieu de lui avoir donné un enfant pour remplacer Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné. Saint Jean Chrysostome fait remarquer ce « Dieu m'a donné ». Alors que lors du péché originel, elle a prétendu ne pas avoir besoin de Dieu, puisqu'elle connaissait le bien et le mal, et qu'elle a prétendu presque prendre la place de Dieu, disons sans passer, ici, elle est repentie et bien repentie, Dieu m'a donné. Seth a un fils qu'il appelle Enoch. Alors, l'orthographe n'est pas la même. Le premier, c'était plutôt Enos que Enoch. Mais il y a plusieurs manières de transcrire l'écriture hébraïque. Celui-ci, c'est Enoch, celui qu'on connaît. Et l'Écriture nous dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Bien sûr qu'on l'avait déjà invoqué auparavant, mais on l'invoqua publiquement et manifestement. Le chapitre 5 de la Genèse va nous donner la descendance d'Adam. Elle rappelle que Dieu a béni Adam et Ève, qu'il créa l'homme et la femme à sa ressemblance, et elle poursuit. Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. La bénédiction de Dieu se poursuit. Elle se poursuit à travers la transmission des parents aux enfants, Et vous vous rappelez qu'Adam a été créé à la ressemblance de Dieu puisqu'il est roi. Saint Jean Chrysostome, à cette occasion, le redit encore très nettement en disant qu'il ne peut pas y avoir d'autre interprétation à la ressemblance d'Adam avec Dieu que cette royauté, cette responsabilité. Eh bien, cela se transmet à la descendance d'Adam par l'intermédiaire d'Adam. Adam forme des hommes libres, non pas libres au sens de indépendants, mais libres, c'est-à-dire au sens de conscients de leurs responsabilités, qu'ils ne sont ni des pantins ni des esclaves, mais de grands hommes dont le nom mérite de passer à la postérité. Je vous passe toute la liste, non pas qu'elle n'ait pas d'intérêt. Saint Jean Chrysostome nous fait remarquer que si Dieu nous donne la liste avec les noms, c'est parce que les noms ont une signification. Mais enfin, il faut avancer. Et on arrive au dernier Enoch connu, à la 7e génération, celui qui engendra Mathusalem. Il marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous ses jours, les jours d'Enoch, furent de 365 ans. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et là, nous avons trois choses à remarquer. Il marcha avec Dieu. Il engendra des fils et des filles. Et troisièmement, Dieu le prit. Il marcha avec Dieu, c'est le plus important. Combien de fois Saint Jean Chrysostome nous fait remarquer que Dieu éclaire la conscience des hommes, à propos de ces premiers hommes, justement, de la Genèse, que les hommes sont conscients de leur rapport avec Dieu, et que Dieu est vraiment présent pour leur montrer ce qui convient pour une vie chrétienne. Et la manière de l'Écriture sainte pour dire cela, c'est marcher en présence de Dieu, c'est-à-dire tenir compte de la présence de Dieu. C'est très important cela, mes bien chers frères, en éducation. Enseignez aux enfants à marcher en présence de Dieu. Caïn, lui, l'Écriture sainte nous dit qu'il se cache de Dieu et qu'il marche loin de Dieu, qu'il n'est pas en la présence de Dieu. Donc nous avons un grand nombre, toute une lignée de bons chrétiens qui marchent en la présence de Dieu. Et Dieu va récompenser particulièrement Enoch. Il le prie. Certes, il ne le prend pas au paradis, puisque la porte du paradis est fermée et ne pourra être ouverte que par Jésus-Christ, y entrant glorieux le jour de l'ascension. Mais cela signifie que Enoch, sans mourir, va être gardé par Dieu, très près de Dieu. Et nous savons, par le Nouveau Testament, qu'il est réservé par Dieu pour les grands derniers combats de l'Apocalypse. Si je me suis un peu étendu sur ces premiers temps de l'humanité, c'est parce que la situation de l'Église aujourd'hui est quasiment la même. Si Dieu était tellement présent aux premiers hommes, alors qu'on était encore dans l'Ancien Testament, que le Christ n'était pas encore venu, à combien plus forte raison Dieu est présent à son Église aujourd'hui dans les épreuves. Mais bien, chers frères, c'est le Saint-Esprit qui vous montre toute la malice des Caïns modernes, des papes modernes qui cherchent à entraîner Abel le juste de manière à le tuer. Beaucoup parmi vous aujourd'hui sont troublés et se disent « De quelle autorité puis-je juger ?» Et cependant, je ne peux pas faire confiance à ces gens-là. Si vous vous comportez comme Abel, votre offrande sera agréable. Certes, il n'y a pas de conversation apparente rapportée par l'Écriture sainte entre Dieu et Abel, parce qu'Abel n'en avait pas besoin, il y avait une conversation intérieure. La qualité de son offrande fut agréée par Dieu. C'est encore mieux qu'une conversation. C'est une présence du Saint-Esprit qui se montre, qui approuve, qui encourage. Soyez les Abels modernes, mes bien chers frères. Le Saint-Esprit sera avec vous, et ne vous inquiétez pas si le Saint-Esprit ne vous parle pas extérieurement, parce que vous savez très bien que vous l'entendez. Vous êtes non seulement comme Adam, mais également comme Seth et toute sa descendance, créés à la ressemblance de Dieu. Ces premiers chapitres de la Genèse sont très intéressants, en ce sens qu'ils nous montrent la présence effective du Saint-Esprit, présence qui ne va faire que se développer et s'approfondir chez les chrétiens, et donc chez nous, mes bien chers frères. Envoyez votre esprit, Seigneur, et vous renouvellerez la face de la terre. C'est la prière la plus connue au Saint-Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.